Rémi Genton va revenir me retrouver pour faire un point sur l'actualité médicale, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'on a beaucoup parlé de nouveaux médicaments d'Alzheimer. On s'est réjoui. Ensuite, on a découvert que, ben non, en Europe, ce ne sera pas possible tout de suite. Alors, on en est où? Quels sont les espoirs qui ne sont pas déçus? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour être le mieux accompagné possible? Quelles sont les actualités de la recherche, docteur Genton?
J'avais envie de commencer par cette slide qui n'est pas hors sujet. Bon, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie très cruelle, on le sait tous, mais en plus, c'est un vrai problème de santé publique, ça ne vous échappe pas. De mon temps, quand j'étais jeune, on appelait ça une pyramide des âges. Vous voyez, ça ne ressemble plus du tout à une pyramide, et quand on projette ce qui s'est passé au Japon et ce qui risque de nous arriver, ça a plutôt la forme d'un champignon. La base est plus étroite que le sommet, à l'exception près de la bonne nouvelle qui est qu'il y a de plus en plus de personnes qui atteignent des âges très avancés, 90 ans et 100 ans, voire au-delà. C'est un succès de médecine d'avoir réussi, et de la santé publique en général, d'avoir réussi cet exploit de faire venir les gens bien, mais justement, il faut qu'ils vieillissent bien. Et quand on sait que 15% des gens au-delà de 80 ans sont exposés à la maladie d'Alzheimer, on se dit, que doit-on faire? Que peut-on faire? Et la recherche, ces dernières années, a fait des progrès substantiels et je voudrais essayer de vous expliquer comment et de vous en convaincre. Bon, je ne reviens pas sur la Fondation, on en a déjà bien parlé. Je pense que vous êtes convaincus que c'est des actions importantes. Passons au sujet principal qui nous préoccupe, où en est la recherche? Le fil conducteur, ça va être un petit peu trois étapes. L'évolution, au départ, l'historique, c'était une maladie identifiée sur l'anapath, c'est-à-dire que c'était à l'examen du cerveau, donc après le décès du patient, qu'on faisait le diagnostic. C'est comme ça que ça a été décrit par Alzheimer en premier. Et on n'a longtemps pas fait beaucoup mieux, même si après on a pu développer des critères diagnostiques, mais toujours cliniques. Et ce n'est qu'enfin avec l'arrivée des biomarqueurs, j'y reviendrai, qu'on a pu avoir un diagnostic de précision qui a changé les choses et permis de conduire des études valables. On a pu, du coup, observer le succès de certains essais thérapeutiques, mettre sur le marché quelques produits, au moins aux États-Unis et dans d'autres pays, et maintenant, on arrive à aussi considérer l'aspect préventif. Vous avez déjà bien entendu parler de ça, mais on va aussi l'évoquer tout à l'heure. Là, je vous présente un des objets les plus magnifiques de l'univers, le neurone. Le neurone, c'est cette cellule magique qu'on a tous dans le cerveau, et qui fait ce que vous et moi nous sommes, ce qui nous permet d'échanger. Alors un neurone, c'est fait de quoi? Il y a un corps cellulaire qui est ici, et ça se présente un peu comme un arbre, vous voyez, avec des racines, et en bas, après un tronc cérébral, des ramifications. Et c'est une cellule qui a une propriété, c'est qu'elle transmet un signal. Donc elle reçoit un signal, elle reçoit des afférences par ce qu'on appelle les dendrites, ces racines, et ça l'émet vers d'autres neurones en aval, et c'est ainsi que se développent des réseaux, et que le retour d'information fait que les réseaux, finalement, comprennent ce qui est pertinent, développent les ramifications utiles, et qu'on développe la capacité de parler, d'échanger, de voir, etc. C'est absolument magique. Malheureusement, il y a quelquefois des bugs, et ces bugs dégénèrent et donnent la maladie d'Alzheimer. Alors les bugs sont de deux types, ils ont été décrits donc en 1907 par Alois Alzheimer chez une patiente, curieusement, qui avait 50 ans. Donc c'était un peu une exception, c'était une de ces formes jeunes de la maladie. Il y a un autre chercheur qui a travaillé aussi, Oscar Fischer, mais on n'a pas le temps de s'attarder trop là-dessus. Et quelles sont ces lésions à l'oculobe qui ont été observées par ces deux chercheurs? Des lésions à l'intérieur des neurones qui sont une transformation d'une protéine normale, qui est anormalement phosphorylée, se déforme, et alors qu'elle constitue normalement le squelette du neurone, et notamment de l'axone, cette longue prolongation, elles deviennent anormales, se déforment et gênent le trafic et le fonctionnement normal de la cellule, donc elles l'attaquent de l'intérieur et la font dégénérer. Il y a aussi un ennemi extérieur qui est ces dépôts, ces enchevêtrements d'une anomalie qu'on appelle amyloïde, parce que ça a une présentation un peu amorphe. Et cette pathologie amyloïde résulte aussi d'un fragment de protéine normale qui est coupé anormalement et donne ce fragment qui a tendance à s'agréger et à créer ces lésions qui, elles aussi, attaquent le neurone par l'extérieur et contribuent à sa destruction. Donc, c'est une perte neuronale liée à ces deux pathologies. Et ce n'est que... Voilà. Ce n'est que finalement, près de 80 ans après la description des premiers cas par Alois Alzheimer, qu'on a mis en évidence que c'était des protéines, ces amas-là, et quelle était leur origine. Alors, deux pathologies qui font l'Alzheimer, tau et amyloïde, deux hypothèses qui se sont mis, qui sont venues en avant et qui ont vraiment créé deux chapelles, deux écoles, les uns tenant que le premier malheur, c'était le tau, la cause de tout, les autres disant non, c'est l'amyloïde qui démarre. Qu'en est-il ? Bon, finalement, c'est quand même l'hypothèse amyloïde qui tient la corde et qui dit au départ, sont les lésions amyloïdes, ici, qui provoque les lésions tau, qui provoque la mort neuronale, qui provoque les troubles cognitifs. En fait, on en est un peu revenu, les choses sont sûrement plus compliquées, comme souvent, c'est-à-dire qu'il y a une interaction entre un processus tau qui est lié probablement au vieillissement, et que quand il rencontre les lésions amyloïdes, là, tout s'enflamme, il y a une synergie entre les deux pathologies, et elle dégénère, elle provoque la mort des neurones. Donc, interaction des deux phénomènes, avec en plus, après, des phénomènes autres qui se rajoutent, notamment l'inflammation, qui est au départ une réaction positive de l'organisme pour se défendre, mais qui devient à son tour toxique. Le diagnostic. Le diagnostic, au départ, était purement anatomopathologique, donc à l'examen du cerveau. Et on disait, moi j'ai appris ça hein, quand j'ai commencé mes études de médecine, il y a les démences séniles, il y a les démences pré-séniles, les démences pré-séniles c'est l'Alzheimer et puis c'est la maladie de Pick, etc. En fait, on s'est rendu compte que ces pathologies amyloïdes et tau, on les retrouvait aussi bien chez des jeunes que surtout chez des plus âgés, et donc on a fusionné tout ça, et c'est ce qu'on appelle maladie d'Alzheimer aujourd'hui, c'est surtout des sujets âgés et quelquefois des sujets jeunes. Mais c'était des critères peu rigoureux qui ont fini par être formalisés, encore une fois, près de 80 ans après la description de la maladie, par des comités scientifiques qui sont réunis et qui ont dit « voilà, c'est ça la maladie d'Alzheimer ». Mais ce qu'ils pouvaient faire, c'était affirmer juste le diagnostic de probabilité parce que, encore une fois, on n'avait pas la preuve anapate vivant du patient que c'était bien de ça notre ICJC et pas d'autre moyen d'accéder à cette certitude. Et c'est finalement en 2007 et 2014, mais d'abord en 2007 avec publication de Bruno Dubois, le professeur Bruno Dubois qui est un des fondateurs de notre fondation, que a été proposée l'idée de faire un diagnostic clinico-biologique, c'est-à-dire de mélanger des critères cliniques et des critères biologiques qui commençaient à émerger et qui sont d'un grand secours pour arriver à ce diagnostic. Quels sont-ils ces critères ? Alors ça, c'était les fameux critères historiques, si vous voulez, de McCann, qui disait diagnostic probable dans le meilleur des cas, pour être certain, il fallait en revenir. Je m'en mêle, c'est pas grave. Pour être certain, il fallait en revenir à diagnostic anapate. C'était ça, le seul diagnostic de certitude, c'était autopsie ou biopsie, mais on ne faisait pas de biopsie, bien sûr. Donc c'était le meilleur des cas, diagnostic probable. Bien sûr, pour être sûr qu'il y avait absence d'autres causes, on faisait une imagerie. Cette imagerie, elle montrait un cerveau atrophique, mais ce n'était pas décisif pour affirmer la maladie. Il y avait un petit signal quand même, l'atrophie localisée dans les zones de la mémoire, qu'on appelle l'hippocampe, à la base du cortex, dans la zone temporale interne. Et ça, c'était un argument, mais quand même pas un argument non plus de certitude. Ces critères étaient peu spécifiques, puisqu'on avait 30% de faux positifs, on le sait maintenant. Donc 30% des cas, on dit c'est une maladie d'Alzheimer et ça ne l'était pas. Comment on s'en est sorti ? Ben, c'est justement l'introduction de ces fameux critères biologiques, avec deux moyens d'accès à la biologie. D'abord, justement, le prélèvement de liquide céphalo-rachidien. Il s'agit d'une ponction lombaire, donc on va à la base de la moelle épinière, à la base du rachis, aller chercher cet espace qui contient du liquide céphalo-rachidien, liquide qui baigne l'ensemble du système nerveux central, donc il est au contact du cerveau, et il nous amène des informations sur ce qui se passe dans le cerveau. On peut y doser les fameuses protéines, tau et peptides amyloïdes, qui sont un reflet de la pathologie. Selon leur tau, on peut dire qu'il y a probablement une maladie d'Alzheimer, il y a même une certitude qu'il y a une maladie d'Alzheimer ou pas. L'autre moyen, c'est des moyens isotopiques, et qu'on utilise plutôt par défaut en France, en thorax. Aux États-Unis, c'est un peu différent, mais en France, on utilise plutôt la ponction lombaire, et quand on ne peut pas la faire pour des raisons anatomiques, trop d'arthrose, contre-indication X ou Y, on se tourne alors vers des marquages isotopiques. On a des molécules marquées radioactivement qu'on injecte aux patients. Elles vont se fixer, elles ont la propriété de se fixer sur les lésions amyloïdes et elles donnent un signal. Ces zones rouges qui sont anormales, qui sont allumées par rapport au contrôle, vous voyez que ce n'est pas du tout la même physionomie, il y a des zones beaucoup plus chaudes et ça témoigne de l'existence d'une maladie d'Alzheimer. La recherche sur le traitement, elle est extrêmement active. Vous voyez dans cette revue que fait tous les ans Jeff Cummings, un Californien avec son équipe, il y a 127 molécules qui sont en développement. Alors, il y a des molécules de nature différente. Ces zones-là du camembert, ce sont les traitements symptomatiques qui visent à donner un coup de pouce. C'est comme un antalgique pour la douleur. Là, c'est un truc qui stimule un petit peu la mémoire, mais ça n'agit qu'un temps. Et puis, il y a celles qui sont destinées à gérer les troubles du comportement, c'est cette zone-là. On va surtout s'intéresser à ce qu'on appelle les disease modifiers, les médicaments qui sont destinés à ralentir la maladie, voire idéalement l'arrêter, mais on n'est pas encore tout à fait là quand même. Pour l'instant, il s'agit de la freiner et la plupart des traitements testés sont des traitements qui ciblent justement l'amyloïde, puisque je vous dis, c'est quand même là le tenant de l'hypothèse la plus, qui tient le mieux la corde.
Donc là, on voit trois ronds. L'extérieur, c'est celui des débuts de réflexion et de travail scientifique. Le deuxième est en phase plus avancée. Et le troisième, on espère que ça va donner de nouveaux médicaments, hein, pour expliquer rapidement.
En effet, je n'ai pas insisté sur les cercles concentriques. De l'extérieur vers l'intérieur, c'est les molécules en début de développement. On teste chez des volontaires sains s'ils sont bien tolérés, comment ils sont éliminés, etc. Et là, c'est vraiment les études de phase 3 qui sont les études, c'est la preuve finale en disant oui, ça marche. Sur la population qu'on teste, il y a un effet.
Et là, on voit bien que pour beaucoup de recherches, pas beaucoup d'élus, et donc c'est vraiment le dernier, le petit cercle qui est porteur d'espoir pour nous. Hein.
C'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas désespérer, et peut-être que les produits qui sont en phase 2 vont avancer et apporteront des solutions. Hein. Ça montre surtout positivement l'activité de cette recherche, et notamment pour les traitements justement qui visent à ralentir cette maladie, qui sont quand même le Graal, c'est ça qu'on cherche à faire. Alors, qu'est-ce que c'est que ces traitements amyloïdes ? Qu'est-ce qu'on en attend ? On en attend, comme vous l'avez probablement compris, ici, c'est l'élévation progressive de l'amyloïde à mesure de l'histoire de la maladie. On commence par un stade préclinique, vous voyez qu'il n'y a pas de symptômes encore à ce moment-là, préclinique, il n'y a pas encore de signes cliniques, mais déjà, l'amyloïde est anormal. Ensuite, on voit que le taux augmente, donc la cascade. Ici, on voit que l'atrophie cérébrale s'installe. Ici, on voit les troubles cognitifs qui s'installent et ensuite les troubles du comportement qui définissent ce qu'on appelle le stade de démence, c'est-à-dire démence, perte de l'esprit, perte de la tête. Et là, c'est ce qu'on appelle les troubles cognitifs légers, donc précliniques, troubles cognitifs légers et stade démentiel, c'est-à-dire avec des troubles du comportement, une dépendance. Et on espère que en coupant cette courbe de l'amyloïde, en supprimant l'amyloïde, on va arriver bien à faire tomber l'amyloïde. Et comme il y a un effet de cascade sur les autres marqueurs, on espère que les autres vont être en plateau, y compris les troubles cognitifs, l'atrophie cérébrale, les troubles cognitifs et la dépendance. Donc, comme il s'agit de protéines, qu'on a des anticorps qui sont des molécules biologiques, elles ne peuvent pas être avalées par la bouche, elles seraient détruites par l'estomac, donc on les injecte par voie intraveineuse, elles sont supposées passer dans le cerveau, aller se fixer à la plaque et là agir comme un anticorps qui détruit vos bactéries avec l'aide des cellules blanches. Là, c'est avec la microglie, on va détruire la plaque et ça fonctionne. Alors, ça n'a pas fonctionné tout de suite. Il y a eu pas mal d'essais et d'erreurs, une progression à la connaissance. Ici, en bleu, vous avez les antitaux, on y reviendra tout à l'heure, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore très avancés. Et il y a toute cette zone qui sont en fait des approches anti-amyloïdes avec des petites molécules en plus clair et des molécules qui sont ces fameux anticorps monoclonaux, les MAB, en plus foncé. Et vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'échecs au départ, tout ce qui est pâle, et tout ce qui est plus foncé et encadré de rouge, c'est les essais qui ont réussi, qui ont abouti. Donc vous voyez, de longues années de tâtonnement avant d'affiner suffisamment la méthodologie pour arriver à démontrer un effet. Pourquoi ces échecs ? Pour réussir, plutôt, il faut avoir les bons produits, il faut traiter les bons patients, c'est-à-dire maladie de manière certaine, la question du diagnostic de certitude, et en plus intervenir au bon moment. toutes les molécules ne sont pas les mêmes, tous les produits utilisés ne sont pas les mêmes. Rapidement, vous le voyez sur ces schémas. D'abord, cette fameuse amyloïde, comme je vous l'ai dit, elle commence par être un fragment anormal d'une protéine qui est normale. Ce fragment anormal, il s'agglomère de plus en plus jusqu'à produire les plaques. Et parmi les anticorps qui ont été testés, il y en a qui sont qui ont plus d'affinité pour les petites fibres, pour les petits amas de fibres ou pour les grandes plaques. Donc toute la gamme est représentée, chacun a son affinité. Elles ne sont pas identiques. De plus, ça, c'est le fameux peptide amyloïde avec ses 40 et quelques acides aminés. Et vous voyez aussi que parmi les anticorps testés, beaucoup, eh bien, ils n'ont pas le même site de fixation sur ce peptide. Donc, encore une fois, toutes les molécules ne sont pas évidentes. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'échec d'un produit n'implique pas l'échec des autres, parce que même si c'est tous des mAbs anti-amyloïdes, ils sont très différents les uns des autres. Cibler au bon moment, cibler les bons patients, ben c'est ce que j'ai dit déjà. Hein. Si on met dans les études 30% de patients qui n'ont pas la maladie, vous allez diluer l'effet et vous allez finalement perdre une partie de l'information et ne pas montrer de différence significative, alors que peut-être il y a un effet chez certains d'entre eux qui justement avaient la bonne pathologie. Donc maintenant, grâce au marqueur, grâce à la ponction lombaire ou à l'IRM, au PET scan que j'ai présenté là, enfin bref, on a une certitude diagnostique possible et donc des critères d'inclusion dans les essais qui sont beaucoup plus pertinents. Et les traiter au bon moment. Est-ce qu'au départ, on n'a pas aussi traité trop tard les patients? Et en effet, on prenait des patients au stade de démence plus qu'au stade de troubles cognitifs légers. Or, il est clair que si vous traitez un patient à un stade avancé, d'abord, ce n'est pas très pertinent parce qu'il restera à un stade avancé. Vous n'aurez pas récupéré, vous n'allez pas le ramener en arrière dans son histoire de la maladie. Et si vous avez déjà un cerveau qui est assez atrophique, c'est pas là qu'il est pertinent d'intervenir. C'est au stade où le patient est encore avec un cerveau capable de fonctionner. Par ailleurs, comme on l'a dit, comme on l'a vu déjà, le mécanisme se complexifie avec le temps. Et quand vous avez tout qui explose, que vous avez l'inflammation qui s'est rajoutée, des processus supplémentaires, vous allez avoir du mal à gérer la situation. J'aime bien l'image d'un incendie. Un incendie, c'est facile à contingenter au début, quand c'est encore quelques branches qui brûlent, quand la broussaille s'enflamme, quand la forêt s'enflamme, quand la grange brûle, que les voitures explosent. Là, vraiment, la situation devient vite hors de contrôle. Et il en y va de même, il faut traiter tôt. Or, donc c'est là que les premiers succès ont été obtenus, c'est quand on a traité les patients assez tôt, à un diagnostic avec un test classique qui se fait par le médecin généraliste, le MMS, hein, un test à 22-30, ce qui est vraiment les formes débutantes de la maladie, les premières phases symptomatiques.
Vous allez donc nous parler du lecanemab.
Et alors, quels ont été les résultats de ces essais? Il y a eu deux molécules principales que je vais vous présenter. Là, il y en a trois même. La première, c'était l'aducanumab, qui a montré un effet. Ensuite, le lecanemab a eu ses succès. Et le donanemab a montré les mêmes effets. Vous voyez une grande concordance entre les résultats sur la disparition des plaques amyloïdes. Qu'en est-il sur la clinique? Lecanemab, donanemab, vous voyez qu'il y a un écart qui se creuse à mesure du temps entre le placebo, qui se détériore plus vite, que les patients traités qui se détériorent moins vite. Donc c'est la courbe verte qui va où le patient se détériore moins vite que la courbe placebo. Et c'est très similaire entre les deux produits. Malheureusement, il y a des effets indésirables. Des effets indésirables qui sont liés au mécanisme du produit. Le produit va se lier aux plaques amyloïdes. Certaines sont près des vaisseaux. Ça crée une inflammation. Ça peut créer des saignements. C'est potentiellement sérieux. C'est potentiellement grave. Donc, il faut prendre des précautions. Il faut prendre des précautions et on peut le faire parce qu'on connaît des facteurs de risque de saignement. Bien sûr, quelqu'un sous anticoagulant est plus à risque. Quelques facteurs génétiques aussi sont plus à risque. Donc, on peut, je crois, cibler de façon à augmenter le bénéfice sans introduire des risques supplémentaires. Alors, l'autre question qui se pose, donc le risque, on vient d'en parler, le bénéfice. Le bénéfice est-il suffisant? Et là, ça a été une discussion aussi. Certains argumentent, c'était Nicolas Villain qui a écrit ça, qu'on s'attendit au départ, dans les conventions et commissions, on avait décidé qu'un effet pertinent, il était là. Et là. Or, ce qu'on observe, si on synthétise tous les résultats obtenus, on est ici. Est-ce suffisant? On pourrait dire a priori non. Alors, deux remarques quand même. D'abord, les échelles utilisées sont des échelles qui multiplient les critères. C'est l'impression, l'échelle principale, le CDR-SB, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est un critère qui est jugé par l'accompagnant. L'accompagnant qui vit au quotidien avec le patient. Et si, globalement, on voit un effet, c'est que l'accompagnant a vu quelque chose. Deuxième constatation, à long terme, que se passe-t-il? On ne sait pas encore très bien ce qui se passe à long terme, mais on peut faire des hypothèses. En particulier, le lecanemab, il y avait l'étude principale, corps, c'est l'étude principale, en double aveugle, donc un groupe placebo, un groupe traité. Et on voit qu'il y a un écart qui se creuse, c'est ce qu'on a démontré, il y avait un meilleur effet, un effet clinique, ça ralentit la maladie. Après, il y a ce qu'on appelle l'extension en ouvert, open label extension. L'extension en ouvert, elle montre où, à ce moment-là, au lieu d'avoir un groupe placebo, un groupe traité, on a mis tout le monde sous traitement actif. Donc certains ont reçu d'abord le placebo, puis ils ont été switchés sur le traitement actif. Et vous voyez, ça se détache de la courbe théorique du placebo. Alors c'est une courbe théorique, celle du placebo. C'est à prendre avec des pincettes parce que ce n'est pas une observation réelle, c'est des données tirées d'une cohorte connue de patients qu'on suit à long terme. Donc l'écart qui se creuse, et vous voyez aussi très intéressant que l'effet est parallèle, donc il y a le même effet pour ceux qui commencent tôt et tard, simplement ceux qui ont commencé tard, ils ne rattrapent jamais l'autre. Et ça c'est aussi un signe qu'on a vraiment un effet qui modifie la maladie, c'est-à-dire que les patients qui ont traité le traitement tôt sont plus les mêmes que ceux qui sont traités tard, ils ont plus bénéficié, ils bénéficient plus tôt avant d'être détériorés, et donc ils ont un gain qui conserve toute leur vie. Probablement.
Donc tout ça, c'était des facteurs qui nous faisaient espérer avoir ce médicament rapidement. Je vois que le temps passe et c'est vrai que c'est important qu'on parle également de cette actualité.
Tout à fait. Alors, bon, il y a un même modèle. Ça aussi, c'est une modélisation faite avec l'autre produit, l'anémab. Et globalement, le message est le même. Mieux vaut traiter tôt que tard. Et on a un effet probablement modificateur de la maladie puisque quand on commence tard, on n'a pas le même bénéfice. Et le labo va même jusqu'à dire que si on met cette barre de dépendance, eh bien, on retarde l'entrée en dépendance de près de 37 mois, mais c'est une modélisation. Donc, on peut contester et espérer que l'effet est pertinent et que même si l'effet observé à 18 mois, parce que c'est des études de 18 mois qu'on a fait, on peut espérer qu'à long terme, va se dégager une efficacité plus grande. Mais ça reste à démontrer. Bon, piste amyloïde confirmée, effets secondaires qui sont un souci. On ne sait pas à plus long terme ce qui se passe, mais on espère que ça va être bon. Il faudra sûrement définir des patients qui répondent le mieux, gérer la question de comment les administrer, etc. Mais vraiment, une première étape significative. Il faut se rendre compte qu'on a cherché pendant des années, comme vous l'avez vu, à mettre au point des médicaments susceptibles de ralentir la maladie, et maintenant, on y est. Ça, c'est quand même invraisemblable, on n'osait plus l'espérer. Alors, l'aducanumab, ça a été approuvé aux États-Unis, mais ça a été vite retiré du marché, c'est un produit qui, le dossier n'était pas bon. Bon, c'était une grande histoire compliquée, mais c'était comme ça. Deux produits approuvés aux États-Unis, approuvés dans d'autres régions du monde, l'Europe, encore une fois, pour l'instant, a refusé le lecanemab en disant on n'est pas content du rapport bénéfice-risque, il y a trop de risques pour un bénéfice qu'on juge trop faible. Le dossier est encore ouvert en ce sens que le laboratoire fait appel, il y aura une discussion avec les experts et peut-être un jour on arrivera, peut-être faudra-t-il des données supplémentaires. Le donanemab est encore en examen, il est trop tard pour trancher ce que va répondre l'agence européenne. Les deux dossiers sont très proches, donc c'est pas gagné encore, mais bon, espérons. Antitaux, j'en dirai pas beaucoup plus, ça existe, c'est en développement, mode d'action similaire, mais encore pas de résultat. Quand on a vu le temps qu'il a fallu pour arriver à une conclusion positive avec l'amyloïde, il nous faudra un peu de temps là. Fort de l'expérience, je pense que ça ira plus vite, mais ça va prendre encore quelques moments. Mais ça bouge. Dernier message de prévention. Je ne vais pas m'étendre trop. Il y a une superbe étude, une commission du Lancet. Le Lancet, c'est un grand journal de médecine anglais et qui réunit une commission régulièrement qui recherche les facteurs de risque de maladie, de démence en fait, facteurs de risque de démence, et qui parle de la prévention, et qui conclut que 45% du risque de maladie d'Alzheimer repose sur des facteurs de risque qu'on peut modifier en intervenant et par des précautions, notamment hygiéno-diététiques.
On va y revenir tranquillement, effectivement, dans la discussion, mais c'est vrai qu'il y a des messages forts à faire passer, voilà. et on va les passer ensemble aujourd'hui.
Donc je vais conclure rapidement. Enrichir ses connexions par une bonne éducation, une bonne formation, une curiosité tout au long de la vie, être actif physiquement et intellectuellement, ne pas s'isoler. La perte auditive est un facteur de risque parce que si vous entendez mal, vous coupez un peu vos relations avec les autres, vous coupez la richesse des relations. Protéger ses vaisseaux, un cerveau qui est bien oxygéné, qui a les bons nutriments, qui est entretenu par aussi de bonnes connexions, sera protégé contre la maladie davantage qu'un cerveau qui est déjà abîmé. Trauma crânien aussi, grand risque. Mettez des casques à vélo. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Rémi Genton.